en travers, la race cravée, puis bien loin en arrière, la race d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfant pas. Imagine un mur et impoli la rage, car impossible et cette paix d'en voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'autodétruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et de béton, aurait-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes, mais dans quel monde la colombe est partie, la rage.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Rage du Peuple. Aujourd'hui, petite émission légèrement chargée, on va avoir une interview avec Mathieu Houle-Courcel, qui est l'auteur d'un livre qui, dans le fond, le titre du livre, c'est « Sur les traces de l'anarchisme au Québec ». On va s'entretenir sur l'histoire de l'anarchisme au Québec et des mouvements sociaux également. On va aussi avoir l'enregistrement d'une entrevue avec la permanente de l'Attaqué, qui est la table d'action contre l'appauvrissement en Estrie. Et puis, on va sûrement finir l'émission avec un enregistrement d'une lecture d'un texte de Joseph Desjardins qui s'intitule « Abat les chefs ».
Est sorti de son bus Volkswagen qu'il avait garé comme une loque devant mon rad. J'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade. Pas de chouli, pas de gaz, le guide du routard dans la poche. Hare Krishna à mort, cheveux ouénés, oreilles percées. Tu vas voir qu'à tous les coups, il va nous taper 100 balles pour se barrer à Katmandou au Népal. Avant qu'il ait pu dire un mot, j'ai chopé le mec par le paletot. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues et marche à l'ombre. Bourgeoise bêcheuse maquillée comme un carré d'as a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flip, enluque la tronche à la pouviasse, fils la culasse et les nibards. Collant léopard homologué chez SPA, Monoï et Chalimard. Putain en sky comme Travolta, qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête? Non mais est-ce croix au palace? Je peux pas saquer les starlettes ni les blondasses. Avant qu'elle ait bu son cognac, je l'ai chopé par le callback. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi du but et marche à l'ombre. Rocky Barjo, le genre qui s'est gouré de trottoir, est venu jouer les Marlon Brando dans mon saloon. J'ai dit à Bob qu'avait fait tilt, arrête, j'ai peur, c'est un blouson noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ses pauvres ébans, je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve, il me regarde, faut qu'il arrête, sinon je le crève. Non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir, là qu'à retourner chez les Grecs, se faire voir. Avant qu'il ait bu son viandox, j'ai chopé contre le jukebox. Et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre. Puis je me suis fait un punk qui avait pas oublié d'être moche. Puis un intellectuel en Lodenne, genre nouvel ops. Quand Bob a massacré le flipper, on n'avait plus une thune en poche. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF, et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête. Si ce mec-là me fait la peau et que je crève la gueule sous le comptoir, si la mort me paye l'apéro d'un air vicelard, avant qu'elle m'emmène voir là-haut, s'il y a du monde dans les bistrots, tu dirais, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi, tu pues. Et marche à l'ombre, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre.
On vient d'écouter une chanson de Parabellum avec Anarchie en Chiraki. Juste avant, c'était Renaud avec son album Marche à l'ombre, mais la chanson du même titre. Et on va commencer avec l'actualité aujourd'hui. Une nouvelle qui concerne encore une fois le TASER. On en parle souvent à l'émission. Bref, c'est une arme qu'on dénonce, qu'on souhaite qu'on cesse de l'utiliser au Canada, mais aussi partout dans le monde, parce que, je veux dire, c'est une arme qui tue. Puis je pense que les policiers ont déjà en masse de techniques différentes pour en finir avec les personnes qui affrontent. Bref, c'est un adolescent de 15 ans qui est décédé dimanche dernier dans le Michigan après avoir reçu une décharge du pistolet électrique TASER qui aurait été tiré par la police. A indiqué la police. Une enquête a été ouverte et une autopsie sera ordonnée parce que la police affirme que c'est pas vraiment clair qu'il y ait un lien direct entre l'incident du TASER et la mort de Brett Elder. Manifestement, les policiers refusent de voir l'évidence. Tu reçois une décharge de TASER, tu arrives à l'hôpital et tu es mort. Je vois difficilement ce qui pourrait avoir arrivé, mais bon, bref. Trois agents sont intervenus pour une bagarre dans un appartement de Bay City dans le Michigan. Et l'un d'entre eux a voulu maîtriser l'adolescent qui, selon la police, commençait à être menaçant vis-à-vis des policiers. Selon un témoignage de sa tante Cindy Ender, le garçon était déjà menotté lorsqu'il a reçu la décharge électrique. C'est une citation. Il a eu l'air de se tordre tout à coup comme un poisson hors de l'eau. Son corps s'est mis à se tordre entièrement à l'envers. Il a été rapidement conduit à l'hôpital de la ville où il a été prononcé mort, a indiqué un communiqué de la police. Le chef adjoint de la police de Bay City, Thomas Plektek, a affirmé que à la télévision locale que le sujet n'était pas menotté lorsque la TASER a été employée. Donc on a ici deux affirmations contradictoires, soit une témointe et le chef adjoint de la police qui était manifestement pas là puis qui se fie sur le témoignage sans doute mi-vrai de la police qui cherche de toute manière à sauver sa job. Il y a seulement un agent de police qui a été suspendu jusqu'à la fin de l'enquête. Selon moi, c'est un cas de... Je veux dire, Chris, quand il est menotté, t'as pas besoin d'utiliser un TASER. Puis c'est une preuve supplémentaire que le TASER, Chris, ça tue. Je veux dire, c'est pas une arme qui est faite pour neutraliser les gens, c'est une arme qui est faite pour tuer. Puis ça, ce qui doit porter le décompte de victimes... une personne de plus, je crois qu'on c'est dans les 300 en Amérique du Nord qui sont victimes du pistolet électrique TASER. Et nos chers policiers ici au Canada souhaitent l'introduire de manière tout à fait simple pour pouvoir neutraliser et sécuriser leur travail, comme s'il n'était pas déjà assez bref. Sinon, on va se déplacer en Israël où l'extrême droite a provoqué des heurts dans une ville arabe en Israël. Une marche de militants de l'extrême droite israélienne dans la ville de Arab Doum El-Fahem a provoqué mardi une manifestation hostile de sa population et d'heurts avec la police israélienne. Les manifestants furieux contre la venue des activistes israéliens dans cette ville de Basse-Galilée, ont jeté des pierres contre les forces de l'ordre qui ont riposté en lançant des grenades lacrymogènes et assourdissantes en faisant usage de canons à eau. Une grève générale a donc été décrétée par la suite dans la ville. Quelques 3000 policiers anti-meute, certains à cheval, ont été déployés dans la ville d'Oum el-Farem, où vivent plus de 200 000 Arabes israéliens qui ont la citoyenneté israélienne. Un porte-parole de la police a fait état de 15 policiers qui seraient blessés et de seulement 3 arrestations, tandis que les médias israéliens vont rapporter plutôt 16 blessés, dont un député du parti de la gauche laïque et pacifiste, Meretz Yann Gilon. Malgré ces heurts, la centaine d'activistes de l'extrême droite s'est vantée d'avoir réussi son pari en brandissant le drapeau israélien à l'entrée de la ville, considéré comme un bastion nationaliste et un fief du mouvement islamique en Israël. L'extrême droite entendait exercer son droit démocratique de manifester n'importe où en territoire israélien, alors qu'elle accuse les Arabes israéliens d'être des traîtres qui soutiennent les Palestiniens contre l'État dont ils sont citoyens. La marche a été autorisée par la police. Elle était conduite par 3 figures de l'extrême droite, Baruch Marzel, Itamar Ben-Gvir et le député Michael Ben-Ari du Parti du Nom National. Donc, je veux dire, de la provocation, encore une fois. Une autre nouvelle extrêmement intéressante, puis plutôt, moi, personnellement, ça me fait chier. La visite officielle de Barack Obama au Canada, qui a duré 8 heures seulement, je tiens à le préciser, aurait coûté aux contribuables canadiens-canadiennes près de 4 millions de dollars pour 8 heures. seulement. Donc, cette somme aurait été dépensée par la police d'Ottawa, 3 millions environ, et la GRC, environ 1 million, pour assurer la sécurité du président américain, qui effectuait sa toute première visite à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir le 20 janvier, ce qui révèle certains documents qui sont obtenus, qui ont été obtenus par la presse en vertu des lois sur l'accès à l'information. Une bonne partie de ces 4 millions de dollars ont servi à payer des heures supplémentaires des policiers. Dans le fond, cette journée-là, tout le centre-ville d'Ottawa était sous haute surveillance afin d'assurer que cette visite officielle se déroule sans anicroche. En fait, une bonne partie du centre-ville était fermée à la circulation. Des agents du FBI étaient également postés de ça et là pour protéger le président américain. 4 millions, c'est ridicule. Moi, je trouve ça vraiment dommage qu'on investisse autant dans la répression, dans la surveillance, puis la paranoïa étatique militaire de la police, que plutôt faire de quoi de purement créatif et intéressant avec cet argent-là, qui, tu sais, vraiment qui sert à tout le monde. Puis je crois pas que, de toute manière, nos chefs d'État soient ce qu'il y a de plus utile pour assurer le bien-être ici-bas sur Terre. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ou sinon, une autre nouvelle qui, celle-ci, concerne encore une fois des millions, et encore une fois concerne la police, mais seulement cette fois-ci, c'est à Sherbrooke. C'est le service de police de Sherbrooke qui chapeaute l'escouade régionale mixte sur les gangs de rue qui va demander à Québec de reconduire le financement d'un million de dollars qui, pour la poursuite de sa mission, soit la répression des fameux gangs de rue qui chercheraient à s'implanter à Sherbrooke vraisemblablement. Le directeur du SPS, Gaétan Labbé, explique que le budget de 930 000 $ qui ont été octroyés par le ministère de la Sécurité publique du Québec l'an dernier sera épuisé déjà le 30 mars prochain. Ça tombe bien, il va peut-être avoir une manifestation juste avant, bref. Cette somme ne peut être assumée par les municipalités. Nous sommes confiants que notre demande sera entendue par Québec afin de poursuivre le travail entrepris depuis plus de 2 ans, explique M. Labbé. Le directeur du SPS qualifie de phénoménal le travail effectué par l'équipe composée de policiers, d'enquêteurs du SPS, de la Sûreté du Québec, du service de police de Granby, ainsi que de la régie de la police du même Frémagogue. La situation sur le terrain s'est améliorée d'au moins 50 % Les groupuscules ou individus qui se mêlent à peur en se disant « ceci aux gangs de rue se font plus discrets. Nous travaillons maintenant à contrer ceux qui sont vraiment associés aux groupes mieux structurés », mentionne Gaétan Labbé. Moi, ce que je comprends de cette citation-là qui nous provient du constable Gaétan Labbé, c'est que le million de dollars qui est utilisé en répression visait pas du tout des membres d'un gang de rue, mais seulement des wannabes qui traînaient dans les parcs en disant qu'ils appartenaient à telle gang, alors que c'était plus ou moins vrai. Ça nous a coûté 1 million de dollars pour leur dire que ce qu'ils faisaient, c'était vilain et qu'ils devaient arrêter. Encore là, on ne dit pas qu'ils ont arrêté, mais qu'ils se faisaient plus discrets. Donc maintenant, ils cherchent à obtenir un autre million pour s'attaquer au vrai problème. En fait, encore là, faut-il penser que si c'est un problème réel ou non. Donc, le travail de l'escouade régionale mixte sur les gangs de rue a commencé à frapper, oh mon Dieu. Au moins 6 arrestations ont été faites depuis le début de 2009 concernant de la fraude, l'utilisation de cartes clonées ainsi que la vente de stupéfiants pouvant être liées à ces gangs de rue en émergence. Pendant ce temps-là, le marché parallèle est très bien saturé par l'offre des motards qui doit travailler conjointement avec la police, mais bon. Pour continuer, ces groupes, ça c'est une autre citation qui me fait étrangement penser à du profilage. Ces groupes étaient présents sur le territoire, ils sont maintenant identifiés. Nous pouvons les suivre au jour le jour. Ces gens-là commencent certainement à nous trouver fatigants, estime le directeur du SPS. Bon, si c'est pas du profilage, c'est peut-être certainement du harcèlement, mais bon. Gaétan Labbé souligne que ces enquêteurs de l'escouade régionale mixte sur les gangs de rue récoltent des fruits des efforts des policiers déployés sur le terrain depuis 2007 par le SPS. Donc, une grosse nouvelle qui veut rien dire. En fait, qui veut dire que les flics ont épuisé tout leur argent pour s'amuser dans leurs grosses voitures et qui n'ont pas vraiment de résultats. Donc, ils vont demander plus d'argent pour peut-être faire exploser quelques pétards et qui sait, peut-être même faire des victimes. Mais bon, ça, l'histoire nous le dira. On va aller faire une courte pause en musique.
Loudly that the sound system. So many colors coming out of concrete. control, get out of control.
Got the yearning for it, give it to me. Selecta, give it to me. Just give me robot selection like you never before. Give it to me. Selecta, give it to me. Give it to me. Give it to me. Selecta, give it to me. Give it to me.
Si vous avez des commentaires ou suggestions concernant notre programmation, contactez-nous par téléphone 819-566-2787 ou par courriel à l'adresse commentaires@cflx.qc.ca. CFLX 95,5 FM, la radio communautaire de l'Est.
On est de retour en ondes à l'émission La Rage du Peuple. Puis on est, on va faire le tour des blogs maintenant pour faire une petite présentation de l'actualité qui est couverte par les membres de la NEFAC, ben en fait de l'UCL. Donc on peut aller voir sur le blog un instant, le blog de la ville de Québec. J'ai un problème avec l'ordinateur, malheureusement. Ça ne devrait pas être très long. Oui, donc, sur le blog, en fait, maintenant, de Sherbrooke, on retrouve une vidéo qui a été mise en ligne aujourd'hui, une vidéo qui a été filmée le 15 mars 2009 à la cour municipale de Montréal, durant la nuit, après les arrestations de masse qui ont eu lieu durant la manifestation opposée à la brutalité policière. Il y a eu environ 200 arrestations qui ont été faites arbitrairement par la police. Puis la vidéo, c'est une vidéo qui a été faite par le COBP, j'ai l'impression. Et c'est une mère qui veut trouver son fils qui avait été, si on veut, enlevé par les policiers de la manière que les faits sont racontés par les témoins, qui ne prenaient pas part à la manifestation et qui se serait fait enlever par deux agents en civil. La vidéo vaut vraiment la peine pour voir un peu la suite des événements, comment les manifestants sont amenés en détention, puis aussi comment on traite les proches qui veulent voir les manifestants qui n'ont d'un pas le droit à leur avocat et qui n'ont pas le droit de recevoir de visites, qui sont deux choses tout à fait illégales. Une autre nouvelle qui a été publiée hier qui est plutôt inquiétante, c'est qu'à Calgary, il y a eu une manifestation néo-nazie qui a eu lieu dans la ville de Calgary. La plupart des manifestations néo-nazies, il y avait une cinquantaine de néo-nazis, mais il y avait 200 contre-manifestants, si on veut, des antifascistes qui étaient là pour montrer qu'ils n'étaient pas nécessairement les bienvenus à Calgary. Pour vous lire l'article, la police de Calgary a arrêté 3 personnes samedi après un affrontement entre 2 groupes de manifestants, l'un néo-nazi, l'autre opposé au racisme. Environ 500 personnes étaient dans les rues encadrées par près de 150 policiers. Des personnes en sont venues au coup, tandis que des manifestants pour la diversité ethnique tentaient d'éclipser ceux prônant la suprématie blanche. 2 personnes ont été légèrement blessées durant la manifestation. Les 3 individus interpellés pourraient faire face à des accusations. C'est un groupe d'extrême droite basé à Calgary, la Iron Guard, la garde aryenne, qui mène une campagne de recrutement actuellement dans les écoles à l'heure actuelle, selon ce qu'a indiqué l'unité des crimes haineux de la police de Calgary. L'opération cours d'école consiste en une distribution de disques compacts comportant un message néo-nazi, selon les informateurs publiés par la presse canadienne. C'est assez inquiétant de voir que même si au Canada, on a des groupes haineux qui n'hésitent plus à se montrer en public et qui ont, même si on veut, certaines protections, voire impunité de la part de la police. Moi, je trouve ça malheureux de voir qu'il y a encore des gens qui conçoivent leur vision des choses de cette manière-là. Puis, je crois qu'il va être maintenant temps de faire jouer l'enregistrement que j'ai été faire de l'interview à la TACAID, dans le fond, qui est une présentation de la table d'action contre l'appauvrissement en Estrie. C'est un enregistrement qui dure 16 minutes. Puis au retour, on va pouvoir continuer en musique et avoir Mathieu Lecourcel avec nous en entrevue qui va nous présenter un historique de l'anarchisme au Québec. Donc, à plus tard.
Donc, je suis avec Lynn Marcoux qui est... permanente de l'attaquant.
Coordonnatrice.
Coordonnatrice, oui. Tout d'abord, l'attaquer, c'est la table de... Non.
Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie.
OK.
On est un regroupement de 29 organismes. En Estrie. Oui, okay. C'est tout en Estrie. Et on a comme, mettons, des groupes à Magog, Mégantic. On fait le tour pas mal de l'Estrie. C'est ça, on a 14 membres actifs et 15 membres sympathisants.
Okay.
Notre mission, nous, c'est de s'attaquer aux causes de l'appauvrissement. Et nos objectifs, c'est sensibiliser la population et les instances décisionnelles à la pauvreté. On travaille aussi à interpeller les instances décisionnelles qui s'impliquent dans des projets pour lutter contre la pauvreté. Okay. On favorise aussi, on encourage la collaboration des organismes afin qu'ils s'impliquent eux autres aussi dans le travail pour la lutte à la pauvreté. Et on dénonce les injustices face à la pauvreté.
Donc, j'imagine que vos revendications vont joindre autant le municipal que le provincial, voire même le fédéral.
Oui, okay. Selon les dossiers. Nous, ce qu'on va faire, c'est que souvent, on est... Ben, comme c'est là, on est le groupe porteur du comité régional estrien pour le Québec sans pauvreté.
Okay.
Je suis aussi représentante pour le comité régional au niveau national, au collectif okay. pour un Québec sans pauvreté. On fait aussi de la sensibilisation dans les écoles.
OK.
On a des conférences, des kiosques, on va dénoncer dans les journaux aussi, on va écrire des lettres,
ouais.
On va faire des conférences de presse, on a aussi des actions de concertation avec différents organismes, on siège aussi sur différents organismes comme la table sur l'itinérance, okay. l'observatoire sur le développement des communautés.
Donc au national, vous êtes actif sur plusieurs comités différents, il n'y a pas un seul qui va regrouper les différents organismes du genre au Québec, au national.
Au national, nous, c'est le collectif pour un okay. Québec sans pauvreté. Ça, c'est notre réseau national.
D'accord.
Par le comité régional estrien pour un Québec sans pauvreté, okay. ça se répète, mais ouais. c'est ça pareil.
D'ailleurs, je crois qu'il y avait une action qui était menée par rapport à ça, une pétition qui avait été distribuée et qui prenait fin très bientôt, j'ai l'impression.
Après la fin, le 31 mars, notre pétition.
31 mars, puis est-ce oui. qu'il y a un site Internet qu'on peut pour pouvoir signer cette pétition-là?
Que si vous voulez la signer par Internet, ouais. parce qu'il faut que tu sortes la pétition, parce qu'on ne peut pas la signer par Internet
okay,
comme tel. Tu peux la sortir, par contre, et la signer et l'envoyer au collectif. Et c'est sur le www.pauvreté.qc.ca. Ça, c'est à Québec. Okay. Mais si jamais vous êtes intéressé, parce que c'est comme une carte postale.
Ouais.
Donc, vous pouvez vous présenter à la table d'action, au 187 rue Laurier. On a des pétitions ici qu'on fait signer. C'est sûr, il va y avoir un blitz aussi sur la rue Wellington le 31 mars, la dernière journée au Point King Wellington, entre 11h et 1h. Fait qu'il va y avoir un blitz de signature. Il va y en avoir aussi à l'université. En tout cas, on essaie de faire un petit dernier effort de blitz, là, parce qu'on a on veut avoir 10 000 signatures en Estrie.
Okay, seulement.
Et, ben,
en
seulement, c'est
seulement.
Beaucoup seulement en Estrie, oui. Et on est rendu au-delà de 8 500. Donc, il faut donner un dernier effort. Les organismes qui sont intéressés aussi, on a une lettre d'appui. okay. pour, qui accompagnerait les pétitions au gouvernement, ouais, à l'Assemblée ouais. nationale. Ça aussi, je l'ai sur courriel. Vous pouvez appeler à la table et on, je vous la fais. Ça, c'est pour les organismes. Ouais. Mais ça aussi, on a au-dessus de 100 lettres juste ici.
Parfait, parfait.
Ça roule très bien.
Puis, tu me disais que vous faisiez de la sensibilisation dans les écoles, mais tu sais qu'il y a eu récemment un rallye qui était organisé à Sherbrooke pour sensibiliser justement à l'appauvrissement.
Oui, le rallye, c'était au départ, ben, on a fait un lancement officiel médiatique avec plusieurs personnalités de la ville
okay.
et de la région. Et c'était pour le but du rallye, c'est de sensibiliser les professeurs dans les écoles okay. à ce que vivent leurs élèves. Parce ouais. que souvent, les professeurs, ce qui arrive, c'est qu'ils ne viennent pas nécessairement de la même place. Ça, je veux dire, ils peuvent travailler dans l'ouest de la ville, qui est une partie quand même assez pauvre, mmh. et venir d'un autre milieu. Fait que savoir exactement ce que vivent les enfants, c'est pas évident. Puis on a souvent des préjugés, puis tout le monde en a. Ça, c'est pas nouveau, là. Tout le monde a un petit peu de préjugés.
Ouais.
Fait que donc, le rallye était fait dans ce sens-là. Et le rallye, c'est de... On vous donne, quand vous arrivez le matin, c'est plusieurs équipes, on vous donne une enveloppe et on vous dit vous êtes qui, vous avez un rôle à jouer.
Okay.
Vous êtes une famille d'immigrants avec sept enfants, vous êtes une personne qui est sur le bord de l'itinérance, vous êtes une famille monoparentale, une personne seule. Et là, on vous envoie vivre vraiment ce que les personnes vivent, c'est-à-dire que vous avez des embûches en vous en allant.
Okay.
Et vous vous rendez dans les organismes où ces personnes-là doivent aller pour avoir de l'aide.
Des ressources, oui.
Fait que vous allez à Moisson-Estrie, vous allez, si vous êtes une personne immigrante, vous allez aller au Trank. Il peut vous arriver des bad luck aussi en chemin. Fait que vous vivez, puis il faut trouver un logement.
Ouais.
C'est pas toujours évident, fait que vous avez affaire avec un propriétaire. on entend parler dans la tribune d'ailleurs.
Mm-hmm.
Et c'est ça, vous vivez vraiment ce que la personne elle doit vivre pendant un avant-midi. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que cette personne-là, elle vit ça tous les jours, toute l'année. Donc, je sais que les commentaires qu'on a reçus de ce rallye-là, ça a été beaucoup comment qu'ils font. Parce que souvent, il y a des préjugés. On doit lutter beaucoup, nous, ici. Puis, c'est les personnes ne veulent pas aller chercher un emploi. En tout cas, on en met, là. Mais dans le rallye, c'est ce que les personnes nous ont dit, c'est comment ils font. Ils sont en état de survie continuelle.
Mm-hmm.
Ils ne peuvent pas penser à chercher un emploi. Tout ce qu'ils pensent, c'est d'essayer d'arriver pour pouvoir finir le
au
mois
quotidien, ouais.
au quotidien. Donc, tu sais, en tout cas, je trouve que c'est un très bon outil de sensibilisation, notre rallye, là.
Oui, il y a eu beaucoup de commentaires positifs, là, seulement pour ce qui est de la tribune. Puis justement, c'est une bonne manière aussi de donner à ceux qui ont participé à ce qu'il a, l'ensemble des ressources concernant la pauvreté à Sherbrooke.
On en nomme juste que quelques-uns.
OK, seulement.
Il y a énormément d'organismes ouais. d'aide à Sherbrooke, mais nous, bien. On a choisi quelques-uns parce que c'est sûr qu'on ne pouvait pas faire le tour. Là,
Non, certainement. Puis justement, pour parler de la pauvreté en Estrie, c'est est-ce qu'il y a un portrait qu'on peut faire de la situation actuellement?
OK. Ben là, je peux te dire, en Estrie, mettons, à l'assistance emploi, il y a 20 000, ça c'est ce qu'on appelait l'aide sociale,
ouais.
ça change de nom souvent. Il y a 20 113 personnes en Estrie. À Sherbrooke, il y en a 11 000 et quelques qui juste de Sherbrooke. Ce qu'on peut dire aussi, juste pour le taux de chômage, présentement en Estrie,
mm-hmm.
il est de 8,1%.
Okay.
Puis en octobre 2008, il était de 5,9%.
Ouais,
ça montre comment nous aussi, là, les personnes en situation de pauvreté, là, le chômage augmente là, avec la crise.
Assez rapidement, surtout.
Assez rapidement.
Beaucoup de fermetures d'usines à Magog, entre autres. Puis, j'imagine c'est une question de temps pour Sherbrooke.
Yeah. Oui. Puis pour Sherbrooke, il y a 19,5% de personnes en bas seuil de faible revenu.
19%?
19,5% à Sherbrooke, 18% en Estrie.
OK.
Ça, c'est les personnes en dessous du seuil de faible revenu.
Oui, oui, oui.
Nous, ce qu'on demande aussi, c'est sûr que c'est ça, on demande que le salaire minimum soit augmenté à 10,66$ pour 2009. Parce que sur nos pétitions, on marque 10 et 16, mais ça, c'était 2007. Si on suit le coût de la vie, on est déjà rendu à 10,66$. Ça, c'est juste pour sortir une personne du seuil de faible revenu. À 40 heures semaine, on fait juste la sortir, là, elle a juste la tête au-dessus de l'eau.
Oui, oui, oui. Puis, quelles seraient les sources de cet appauvrissement-là, ici en Estrie, plus particulièrement?
Et c'est sûr qu'ici en Estrie, il y a eu beaucoup de fermetures d'usines. On est une des villes où il y a le plus haut taux de salaire minimum.
Mm-hmm.
Comme je disais, le salaire minimum, tu restes pauvre, même à 40 heures.
Ouais.
Tu as beaucoup de travail précaire, de travail à temps partiel. Les baisses de conditions de travail aussi, les baisses de salaire, on sait que le monde renégocie les contrats de travail, mais là, présentement, ils renégocient tout à la baisse. Il y a aussi il y a les coupures des programmes sociaux. C'est comme à l'aide sociale, il y a juste, cette année, ils ont accepté d'indexer le chèque d'aide sociale plein, mais depuis quelques années, ils indexaient seulement à la demi du montant du coût de la vie. Donc, c'est ce qui n'était pas correct.
Comme ça, c'est, à moitié.
C'est ça, mais c'est parce que ces personnes-là ont perdu énormément de pouvoir d'achat. Mm-hmm. Ça, c'est pour les personnes aptes au travail. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y en ait plus de catégorisation.
Okay.
C'est une personne qui a besoin d'aide, tout le monde au même montant.
Ouais.
Nous, on demande au moins 13 472 en 2009. C'est la mesure du panier de consommation du gouvernement. Donc, c'est lui qui nous dit que ça prend ça pour couvrir nos besoins. Fait qu'on demande que pour les personnes âgées, les étudiants, les personnes à l'aide sociale, en tout cas, que tout le monde soit aussi au moins à ce niveau-là pour arriver à payer le nécessaire. Ça ne sort pas du seuil de pauvreté, là, parce que le seuil de pauvreté est à 19 000 pour une personne seule.
Puis j'imagine aussi que les logements sociaux se font attendre également, ça doit rentrer dans la balance.
Oui, c'est sûr qu'on demande une hausse du parc parc locatif. Là, je pense que c'est... Mon Dieu, je me souviens plus de mon chiffre par cœur, là. Mais oui, on demande une hausse des logements sociaux parce que si tu payes plus que 25 % de ce que tu gagnes en logement, tu commences à t'appauvrir.
Ouais.
Il y a des personnes qui payent 30 % 50 % 80 % du montant de ce qu'ils ont pour vivre en logement. Donc, ces personnes-là sont vraiment là, appauvries. C'est souvent des personnes seules.
Mm-hmm.
Parce que les personnes seules ils ont autour de 577 aides sociales par mois. Donc, rien que ton logement te coûte 350-400$ par mois, un logement, disons, raisonnable, là, ce qu'on peut appeler raisonnable, il faut que tu manges, il faut que tu t'habilles, il faut que tu payes, c'est impossible d'arriver.
Okay. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent dans ces chiffres-là, en général, parce que je sais qu'il y a une certaine période de précarité chez les étudiants, généralement, soit ils vont réussir à s'entrer, mais est-ce qu'ils rentrent dans les chiffres quand même?
Oui, je crois que je pense que le recensement de la ville prenne aussi les étudiants.
OK. Puis déjà que la ville de Sherbrooke est une ville étudiante, ça doit influencer beaucoup la balance.
Influencer la balance. Mais pour en revenir aux personnes en situation de pauvreté, si tu prends plus que 64% de ce que tu gagnes pour te nourrir, te loger et te vêtir, tu es en danger d'être sous le seuil de ta vie de revenu.
OK. Puis c'est assez ironique, bien, si on peut faire le lien. Je sais qu'il y a plusieurs études qui ont été menées puis qui disaient que la ville de Sherbrooke était un des meilleurs endroits pour l'investissement en entreprise, si on veut, justement pour certaines raisons, dont le faible coût de la main-d'œuvre, puis l'appauvrissement de celle-ci qui la rend extrêmement, vulnérable. Donc, moi, je trouve ça intéressant de voir que c'est lorsque les gens sont les plus pauvres que pour l'entreprise, c'est les meilleures conditions d'investissement.
Mais c'est ça, c'est que la ville de Sherbrooke est une des villes où les salaires, on a plus de personnes à salaire minimum. Donc, c'est sûr que ça peut être intéressant pour les entreprises.
Mm-hmm. Puis la ville doit facilement courber les chines aussi devant les 20 investisseurs.
Là, je pourrais.
Mais bon, une autre
chose.
Puis, mis à part ce qu'on a énuméré, est-ce qu'il y aurait d'autres causes de la pauvreté? Je sais qu'il y a quand même Sherbrooke qui accueille beaucoup d'immigrants et migrantes. Puis ceux-ci n'ont pas nécessairement beaucoup de facilité à se trouver de l'emploi, sauf ceux, bien sûr, qui sont qualifiés, je pense notamment en enseignement, peut-être.
On ne reconnaît pas non plus les diplômes des personnes immigrées. C'est très difficile. Donc, ces personnes-là, quand ils arrivent ici, puis souvent, ils vont travailler serveurs. C'est pas parce que c'est des bons métiers, mais c'est un salaire minimum. Donc, ça les tient dans une pauvreté. Puis c'est souvent aussi des personnes avec des grosses familles. Quand ils arrivent, ils n'ont pas le droit aux allocations de suite, ils n'ont pas le droit à payer bien des programmes qu'ils n'ont pas le droit avant 6 mois, 1 an. Donc, ils ont beaucoup de misère à se loger.
C'est là où ils s'appauvrissent le plus, j'imagine.
En tout cas, ils font partie des personnes en situation de pauvreté. Puis si tu regardes aussi ce qu'on a vu à un moment donné dans les journaux, c'est que des familles immigrantes qui arrivent avec 4-5 enfants, 6 enfants, sont obligés de prendre 2 logements.
Oui.
Tu sais, le père est obligé de prendre 2 logements pour réussir à pouvoir avoir une habitation pour sa gang. Fait que payer 2 logements par mois, quand t'as de la misère à en payer un,
c'est pas évident.
C'est pas évident pour eux autres. C'est une autre question de logement social.
C'est assez étrange parce que je sais qu'une bonne partie de l'immigration qui est choisie ici au Canada, Je me demande pourquoi, si on l'a choisi, on n'est pas capable de reconnaître leur, leur qualification.
Ça, c'est une question épineuse. Là. C'est plus les normes comme les médecins ou les infirmières, les ordres, les lois du gouvernement qui font qu'ils ne reconnaissent pas automatiquement les diplômes. Là.
J'imagine que c'est une mesure quand même protectionniste, quelque part, je sais pas.
Ça, c'est
bonne
moi
question.
Et mon domaine.
Sinon, actuellement, quelles sont vos appréhensions pour ce qui est du futur concernant, entre autres, la crise, mais également le gouvernement qui semble déterminé à ne pas améliorer la condition sociale au Québec?
C'est sûr que nous, ce qu'on a peur, c'est on a déjà les hausses d'électricité qui ont été annoncées. Ce qu'on a peur, c'est des coupures un peu dans les programmes, puis des hausses de tarifs dans différents domaines, comme les garderies, les permis de conduire. En tout cas, je sais que le gouvernement, à cause du déficit, on a peur énormément de ce qu'il peut nous apporter comme coupure. Dans les logements sociaux, est-ce qu'il va en avoir aussi? Nous, on sait que ça va toucher particulièrement les personnes en situation de pauvreté parce qu'ils n'ont pas rien pour combler les hausses. C'est une de nos demandes, d'ailleurs, que s'il y a des hausses de tarifs, que le gouvernement prenne des mesures pour aider ces personnes-là à payer les hausses qui s'en viennent. Fait que la crise, elle va affecter énormément cette partie de la population.
Oui, puis j'ai comme l'impression aussi que le gouvernement cherche de plus en plus à se déresponsabiliser dans la plupart des secteurs classiques, si on veut, où il y avait à s'impliquer au profit du privé, j'ai l'impression.
Mais si on regarde juste le système de santé, les coupures qui s'en viennent, les privatisations, nous, on dit que c'est un système à deux vitesses qui s'en vient, là. C'est très dangereux parce que c'est sûr que les personnes en situation de pauvreté vont pouvoir être soignées, mais les meilleurs, pas les meilleurs, mais en tout cas, une partie des médecins, des infirmières vont s'en aller vers le privé. Donc, ça ôtera pas plus les lignes d'attente, mais c'est que les personnes en situation de pauvreté vont avoir moins de soins, puis vont pouvoir s'en payer moins aussi. Puis si on regarde le système américain, qui nous cite en exemple des fois, c'est parce qu'on va pas voir comme faux, parce que les personnes en situation de pauvreté, là-bas, sont pas à moitié soignées. Donc,
sinon, peut-être des annonces que vous voulez faire. Je sais que le 31 mars, c'est le dépôt de la pétition pour un Québec sans pauvreté.
C'est la fin de la campagne, la pétition collective Bâtir un Québec sans pauvreté. Et le dépôt officiel va se faire devant l'Assemblée nationale le 14 mai, qui s'en vient. Et j'ai pas tous les détails encore parce qu'on est en train de finaliser l'action, mais la population va être invitée. Il va y avoir des autobus de Mégantic et de Sherbrooke qui vont monter pour participer à cette action-là parce qu'on veut, ça a été une grosse campagne, fait qu'on veut donc une grosse activité d'envergure pour montrer au gouvernement que qu'est-ce qu'on demande, on le veut.
Puis, si on veut se renseigner, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou un site internet qu'on peut rejoindre?
Oui, vous pouvez appeler au 819-829-3822, c'est le numéro de téléphone de la table. Et notre site internet, c'est tacae.org.
Parfait, bien, je te remercie beaucoup, Lynn, puis ça fait plaisir.
Parfait, au revoir.
De retour en studio à l'émission La Rage du Peuple sur les ondes de CFLX 95.5. Puis je suis avec Jean-Michel Fontaine qui est avec moi, qui était déjà venu à l'émission sur le spécial 8 mars et qui est de retour avec nous pour nous partager ses créations. Je crois qu'il va pouvoir les présenter lui-même.
Absolument. Je vais débuter avec c'est quelque chose qui a été écrit en 2006, donc ça fait déjà 3 ans. Et ça parle un peu de l'état de la violence, l'état, en fait, dans notre monde, dans notre système très capitaliste et très où on favorise la compétition, l'accumulation de richesses et où on va un peu piler sur les autres pour tout ça. Alors, c'est ce que ce texte-là, v'là 3 ans, c'est ce que je voulais exprimer dans ce texte-là. C'était un peu de la rage, c'était un peu... ça a sorti comme ça, donc évidemment, c'est sûr que j'ai des propos des fois... assez cru dans ce texte-là, mais je vais essayer de le revivre comme je le vivais à l'époque, c'est-à-dire là 3 ans. Alors, je me lance, ça y va comme ça. On frappe sur la tête des gens, partout, à gauche, à droite. On punit par les armes, finit le temps des diplomates, un seul motif, notre seule et propre protection. La haine s'est propagée maintenant, on constate l'infection. À coup de gun, à coup de bombe, le moyen, peu importe, la violence est partout, attention, elle frappe à ta porte. On l'a dit gratuite, mais pourtant, elle coûte tellement cher. Son intensité grimpe comme si on faisait une enchère. Aujourd'hui, plus que jamais, elle fait partie du portrait de notre humanité. Mais si un jour elle partait, Israël-Palestine marchant main dans la main, USA-Irak devenant de bons copains. Wow, illusion tellement grande hier, j'ai eu une vision. J'ai vu plusieurs bonnes nouvelles à la télévision. Union de paix sur toute notre belle planète. L'arrivée d'un sauveur ou d'un nouveau prophète. J'ai vu des sourires provenir du tiers-monde, des traités de paix signés en quelques secondes, des femmes soumises enlever leur voile. Maintenant, c'est vrai, à l'homme, elles étaient égales, mais loin du réel, vite fait, je suis retombé sur terre. Une fillette de 4 ans, abusée par son père. Un homme s'enlève la vie devant ses dettes de jeu. Des jeunes consomment pour fuir. Christ s'apparaît dans leurs yeux. La police qui abuse utilise la force pour rien. Non, ils disent que c'était nécessaire. C'est encore le même refrain. Des commissions d'enquête qui dénoncent la corruption. Seront-ils punis? Du moins, iront-ils en prison? Mais non, bien sûr que non. Comme d'habitude, à quand la crise de révolution? Merci.
Merci beaucoup, Jean-Michel. Puis, de notre côté, on va aller faire une pause musicale pour ensuite avoir avec nous, l'autre bout du fil, Mathieu Lecourcel, qui va nous faire une présentation de l'historique des mouvements sociaux, mais surtout de l'anarchisme au Québec. Donc, à tout de suite.
La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère, on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous partons donc carcériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens, libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillons dans la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation, article 49, répression. Couvre-feu, dépassé, ta 5e république a pris un coup de vieux. Le bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée qu'on se cache les plus grands des ragas. Nos quartiers pour que les autres aient peur. Des politiques qui jouent les acteurs n'assument pas le passé colonial. Et quand les banlieues pètent à tous les rappeurs, mauvais soi exemplaire ou mémoire sélective. Au doux, ce France de mon enfance se joue l'amnésie. Que fait la belle quand elle part d'immigration? Ce n'est pas ton peuple ou collabo qui s'est battu contre l'occupation. Au de ton podium, toi qui fais-tu fier de tes soi-disant droits de l'homme. Et tout ton siècle des lumières, ta philosophie humaniste s'est arrêtée à la théorie quand tes armées sont parties coloniser l'Afrique. La liberté d'expression comme tout à deux vitesses. Islamophobie à tout va critique pas Israël, c'est la politique schizophrène de la France. Fracture sociale maintenue et par l'égalité des chances. Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cacher plus grand des ragas. Sortez les dossiers noirs, France-Afrique demande à Verschap. La France a oublié pour les quelques individuels. Certains sont morts pour le droit des travailleurs. Rappelle-le à Villepin, contrat première embauche. Fait exécute ou dégage, régression sociale à tous les étages. Bientôt le point de non-retour au royaume des aveugles. Les pornes sont rois comme un fascion. Premier coup, Super Soro est arrivé, un Sarkozy totalitaire. N'oubliez pas que c'est par les hommes qu'est arrivé Hitler. Un ministre propouche l'OMC à son élève Guillaume Sarkozy, vice-président du MEDEF. Pendant que les privatisations sèment la colère, nos politiques s'en réjouissent. Sont devenus actionnaires snob, les protestations puis les criminalisent. Envoyez même le GIGN pour stopper des